Chapitre 8. Dès que le jour parut, Madame Cordier s'occupa du déjeuner. Étienne ne voulait rien accepter. À force d'insistance, elle parvint à lui faire manger 2 œufs à la coque et boire un demi-verre de vin vieux. « Vous avez longuement réfléchi. Avez-vous pris une décision ?» lui demanda-t-elle. « J'ai longuement réfléchi et j'ai pris une décision, » répondit-il. « Qu'allez-vous faire ?» Cette question, si naturelle, le fit tressaillir. « Je vais aller à la ville, » dit-il. « Vous avez raison, Étienne. Avant tout, vous devez consulter les magistrats. » Après un moment de silence, il reprit « Je voudrais bien, avant de partir, embrasser mes enfants. Ne pourriez-vous pas aller à la ferme et revenir avec eux ?»« Je ferai tout ce que vous voudrez, Étienne. Faudra-t-il prévenir Jacques et Céline ?»« Sur la tête de votre fille, mère, sur celle de vos petits-enfants, je vous conjure de ne pas dire un mot, » répondit-il vivement. « Je me tairai, » dit-elle. Elle mit une coiffe blanche, jeta un fichu sur ses épaules et sortit. Elle revint au bout d'une demi-heure, amenant les enfants. Étienne les entoura de ses bras et les tint serrés sur sa poitrine. Ensuite, il les mit sur ses genoux, prit dans ses mains les 2 petites têtes blondes et les couvrit de baisers. « Comme ils sont grandis, comme ils sont beaux !» se disait-il. Les enfants se laissaient caresser sans rien dire. Ils n'étaient pas effrayés, mais la petite fille, plus timide que son frère, semblait vouloir cacher sa figure. Ce dernier regardait en dessous Étienne, dont la longue barbe paraissait vivement l'intéresser. Le pauvre père aurait bien voulu les interroger, les faire causer. Au milieu de son malheur, c'eût été pour lui une grande joie. Il se la refusa dans la crainte de se trahir. Il les embrassa encore une fois, puis il se leva en disant « Je pars ». Madame Cordier lui mit dans la main ses petites économies, 2 billets de 20 francs. « C'est plus qu'il ne me faut, » dit-il. Il mit son chapeau, qu'il enfonça sur ses yeux. Par surcroît de précaution, il enveloppa le reste de son visage avec un vieux cache-nez de laine. Il sortit par une porte de derrière, ouvrant sur les jardins. Pour gagner la grande route, il devait traverser une sorte de vallée au fond de laquelle coule une petite rivière bordée de vieux saules aux troncs tordus. En été, pendant les jours de grande sécheresse, la rivière est souvent à sec. On peut alors la franchir facilement en plusieurs endroits en passant sur de grosses pierres. Mais les pluies des jours précédents et la fonte des neiges avaient amené une crue. La rivière débordait sur plusieurs points. Devant cet obstacle, Étienne éprouva une vive contrariété. Il savait qu'en remontant vers le village, il trouverait une passerelle, mais il lui fallait se rapprocher des maisons, ce qu'il avait voulu éviter d'abord, dans la crainte de rencontrer quelqu'un et d'être reconnu, ce qu'il eût considéré comme un véritable malheur. En effet, si sa présence dans le pays venait à être connue, sa position déjà si affreuse devenait plus horrible encore, et il ne lui était plus possible de mettre à exécution un projet qu'il avait conçu dans la nuit. La ville est à 6 lieues des sexes et il était absolument nécessaire qu'il s'y rendît. Voulant revenir au village le soir même, de bonne heure, il avait donc 12 lieues à faire à pied. Car, toujours pour ne pas risquer d'être reconnu, il ne voulait pas se servir des voitures publiques. Or, il était déjà tard et il n'avait pas une minute à perdre. On devine son désappointement lorsqu'il se vit tout à coup arrêté dans sa marche par le cours d'eau. Il se trouvait placé entre ces 2 alternatives. Descendre en suivant la rive droite de la rivière, afin d'aller la traverser sur un pont de pierre à environ 1 lieue de distance, ou affronter le voisinage des habitations en remontant jusqu'à la passerelle qui n'était pas à plus de 300 mètres de lui. Dans le premier cas, obligé de suivre les méandres du cours d'eau et de marcher souvent dans les terres ensemencées et détrempées par les pluies, pour se détourner des terrains bas submergés, il calcula qu'il perdrait au moins 2 heures. Il hésita un instant, mais devenu libre après plusieurs années de captivité, il savait combien est précieuse la liberté. Il ne put se résoudre à dépenser 2 heures inutilement. Il revint vers Essex, se dirigeant du côté de la passerelle. À chaque pas, une pierre, un buisson, un arbre, un accident de terrain, un objet quelconque frappait son regard et lui rappelait un souvenir, une de ses joies d'autrefois. Au milieu d'un pré, il s'arrêta devant un grand peuplier. Il était sous le coup d'une émotion extraordinaire. De grosses larmes roulaient dans ses yeux. Sur le tronc de l'arbre, il trouva un E et un C et, au-dessous, une date. 15 ans auparavant, avec la pointe d'une lame de couteau, il les avait gravées dans l'écorce. Ces deux initiales, cette date, avaient été comme le prologue de l'histoire de son bonheur. Jamais il ne l'avait oublié, cette date mémorable. Ce jour-là, près du peuplier, Céline et lui s'étaient rencontrés. L'arbre avait des feuilles, des oiseaux chantaient, cachés dans ses branches. L'herbe était fleurie, dans le ciel bleu, le ciel souriait. Pour la première fois, il avait osé toucher la main de Céline en lui disant « Je vous aime ». Et ce même jour, les yeux baissés, Céline lui avait répondu « Si ma mère y consent, je serai votre femme ». Le malheureux ne pouvait plus s'éloigner de cet arbre qui, impitoyable raillerie, portait encore les traces de son bonheur détruit. Le printemps qui va venir, pensait-il, lui rendra sa verte parure, les oiseaux viendront encore chanter dans ses branches, en juin, sous son ombrage, les faneuses se reposeront comme tous les ans. Le printemps et l'été rendent tout à la terre, et Dieu qui a tout créé, Dieu qui peut tout, ne me rendra pas mon bonheur perdu. Un sanglot déchirant s'échappa de sa poitrine, il poussa un cri sourd, désespéré, et s'éloigna brusquement. Une nouvelle épreuve, plus douloureuse et plus cruelle encore, l'attendait un peu plus loin. Au bord de la rivière, à 20 pas de la passerelle, deux hommes étaient occupés à mettre en fagot les branches récemment coupées d'une 20aine de vieux saules. Dans ces deux hommes, Étienne reconnut son père et un de ses frères. Depuis 2 ans, le père Radoux avait bien vieilli. Il était encore fort et robuste. Mais ses cheveux étaient devenus tout blancs et des rides profondes se creusaient sur son front et ses joues. « Pauvre père !» se dit Étienne. « Il m'aimait bien aussi, lui. Était-ce donc le chagrin qu'il a changé ainsi, en si peu de temps ?» Son premier mouvement, mouvement irréfléchi sans doute, mais bien naturel, fut de s'élancer vers le vieillard, prêt à lui crier « Celui que vous avez pleuré, que vous regrettez encore, n'est pas mort. Je suis Étienne, je suis votre fils. » Mais aussitôt, une sorte de terreur s'empara de lui. Il lui sembla que des pointes acérées s'enfonçaient dans son cœur. Le cri qu'il allait jeter s'arrêta dans sa gorge serrée. Un nuage passa devant ses yeux. Il chancela, mais il resta debout. Le souvenir de sa femme, de ses enfants, de Jacques, le rendit maître de lui-même. Il se redressa, plus fort et plus énergique, et, croyant ne pas avoir été aperçu, il se jeta dans un chemin creux, derrière une haie, afin de continuer son chemin vers la passerelle. Mais, si rapide qu'eût été son mouvement, il n'avait pas échappé au père Radoux, qui, ayant lié son fagot, se relevait juste au moment où il sautait derrière la haie. « As-tu vu cet individu qui marche là-bas dans la ruelle des jardins ?» demanda le vieillard à son fils. « Oui, père, je l'ai vu. On dirait qu'il a eu peur de nous. »« C'est certain, mon père. Si telle est aussi ton idée, c'est assez drôle. » « C'est probablement un vagabond qui aurait encore plus grand peur des gendarmes que de nous. »« Ou bien un pauvre diable qui cherche du travail ou du pain, » répliqua le père Radoux. « Voulez-vous que je coure après lui ?»« L'inquiéter, pourquoi ? Achève ton fagot, mon garçon, cela vaudra mieux. » En ce moment, Étienne traversait la rivière sur la passerelle. « C'est vraiment un gaillard bien bâti, » reprit le père Radoux. « Il a la taille et la tournure de ton frère, mon pauvre Étienne. Ne trouves-tu pas ?» Et au souvenir de son fils, deux grosses larmes tombèrent sur les joues du vieillard. « Allons, » fit-il avec brusquerie, et comme s'il eût été mécontent de lui-même. « Travaillons. Il faut que nous ayons achevé notre ouvrage pour l'heure de la soupe. » Étienne s'éloignait rapidement. Un instant après, il était sur la grande route.